Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Elle active. Le magazine Elle s'engage auprès de vous dans votre vie professionnelle.
Nous allons continuer donc cette conférence sur le thème des femmes, de plus de femmes dans tous les secteurs, notamment la tech, évidemment, on va en reparler après l'intervention d'Aurélie Jean. La tech, la finance et l'industrie, qui sont trois secteurs qui manquent cruellement de femmes. Alors vous allez me le dire, ça a certainement changé, évolué, il y a certainement beaucoup de solutions à apporter aujourd'hui. Donc, il est nécessaire et urgent que les femmes soient présentes un peu partout dans tous les domaines, évidemment, car c'est évidemment une formidable opportunité d'emploi, d'abord, mais aussi un enjeu politique de vision plus égalitaire du monde. On va le voir avec nos invités qui sont spécialistes chacune à leur manière dans ces secteurs avec un fort accent mis sur les nouvelles technologies, évidemment. Donc je vous les présente. D'abord Véronique Morali, présidente du directoire de Webedia, une entreprise spécialisée dans les médias en ligne et fondatrice et présidente de l'association Force Femmes que vous avez peut-être croisée dans le forum Elle Active et qui s'occupe principalement des femmes de plus de 45 ans, de leur retrouver voilà, un emploi dans tous les domaines. Laurence de Villeur, donc à votre gauche, vous êtes professeure.
Bonjour.
En intelligence artificielle et éthique à Sorbonne Université et chercheuse au CNRS. Vous êtes également présidente de la fondation Blaise Pascal, qui comporte un programme pour pousser les filles. Voilà, vous avez apporté la plaquette, vous avez raison.
Dans les domaines. La médiation.
Sur la médiation. Voilà, vous allez nous en dire plus un petit peu plus tard dans les domaines donc scientifiques et mathématiques. Et vous êtes l'auteur, donc vous avez eu la gentillesse de me l'apporter d'un ouvrage donc passionnant, les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça, aux éditions de l'Observatoire. Ça,
je savais qu'on allait apprendre plein de trucs ce matin, mais c'est encore mieux que ce que je pensais.
Oui, donc voilà. La curiosité.
Caroline Ramad, enfin, vous êtes fondatrice et présidente, directrice générale de 50 in Tech. Donc, on avait eu l'occasion de se croiser il y a un petit moment quand vous lanciez. Donc, cette plateforme européenne de recrutement qui, je vais boire un petit peu d'eau, hein, bientôt, qui met en relation les talents féminins de la tech avec des entreprises que vous sélectionnez selon leurs besoins et selon leur volonté aussi d'inclure les femmes. Donc ça, c'est aussi important de le souligner. Donc merci à toutes les trois d'être là. On va parler d'abord quand même du constat. Alors je sais que Laurence de Villers, vous me disiez en amont de cette conférence que vous n'aimiez pas trop donner des chiffres
négatifs parce qu'ils sont souvent repris et ça peut peut-être dissuader justement, ça peut avoir un effet plutôt négatif de dissuader les filles finalement d'aller dans ces secteurs, mais il est important de, on en a donné quelques-uns dans cette matinée, mais il est important quand même d'en donner encore, disons, quelques autres. Et on va voir ce qui avance aussi, bien sûr. 47% quand même des étudiants en première année universitaire sont des filles, mais en filière sciences fondamentales et applications, elles ne sont que 28,4%. La France compte parmi ses ingénieurs, donc Florence Besson nous l'a dit tout à l'heure, 27% de femmes. Vous aurez peut-être d'autres chiffres à me donner, Laurence de Villers, plus positif. Dans l'industrie, les femmes représentent à peine 30% des salariés et 15% des cadres. Ça a peut-être évolué aussi, Véronique Morali, vous pourrez nous le dire. Et enfin, les femmes occupent seulement 17% des postes dans la finance et 25% de postes dans l'audit, alors qu'elles représentent, par exemple, 46% des postes dans le marketing et 58% des postes dans les ressources humaines. Donc le constat, on le connaît, évidemment. Mais je me tourne vers vous, Véronique Morali. Vous avez fait vos armes, pour le coup, dans la finance, c'est ça, dans le capital investissement, après l'ENA et l'inspection des finances. Qu'est-ce que vous diriez sur le manque de mixité des filles dans les filières qui...
Alors, d'abord, ça, bonjour tout le monde. D'abord, oui, bonjour Julia, bonjour oui. À mes collègues de ce matin. Je suis là pour être que positive.
Je sais, vous m'avez dit.
Mais que positive. Hier, Julia m'envoie un mail en me disant « Est-ce qu'on peut trouver des solutions à ça, à ça, à ça ?» J'ai tout de suite renvoyé un mail. Il était 11h du soir. J'étais en train de regarder tranquille ma série sur Netflix. Et hop, donc ça m'a tout d'un coup donné un boost et je me suis promise d'insister plutôt sur la dynamique que sur l'image. Parce qu'on a quand même toujours ce sujet. Et quand on parle de poste, de quel poste parle-t-on ? Donc c'est vrai qu'on n'est pas au bout de nos peines. C'est vrai qu'on vit dans une société et où les femmes cristallisent toutes les évolutions, un monde contrasté où encore ce matin, je le disais à Julia, c'était effroyable parce qu'il y a le côté de la mairie de Rouen, ça n'a rien à voir avec nos métiers, mais je le dis quand même parce que je trouve que c'est perturbant pour des femmes qui ont besoin de s'inscrire dans une continuité, dans une sérénité, dans un monde qui bouge en dynamique positive, de voir à la fois cette effroyable révélation de ce qui s'est passé à l'école centrale, justement une école d'ingénieurs où on veut voir plus de femmes, Supélec, et effectivement, c'est pas la première, ça sera pas la dernière, enfin je dis ça, j'espère que non, tout en le disant. Alors que justement, on se plaint et on regrette, on déplore qu'il y ait peu de femmes quand elles voient ça. Mais je me dis, mais mes filles qui sont plus grandes, mais si elles voient ça et qu'elles avaient eu envie un jour d'y aller, elles diraient, mais jamais, j'irai jamais. Et dans le même temps et en contraste, on a la mairie de Rouen, rien à voir, dont le maire annonce qu'il veut déboulonner la statue de Napoléon pour mettre celle de Gisèle Halimi, qui certes est une de nos pionnières, est une femme qui a embrassé tous les combats auxquels les femmes s'identifient aujourd'hui, donc tout ça est extrêmement perturbant, il n'y a pas de repère suffisamment stable, et donc en effet, les femmes vont plutôt par confort, par peur, parce qu'il y a quand même le contexte aujourd'hui de nos sociétés, bien sûr il y a eu le Covid, mais pas seulement, est un contexte anxiogène, et les femmes ont plutôt un sentiment de devoir se réfugier là où elles se sentent à l'aise. Or, tous les codes de tous ces métiers que vous venez de dire, ce sont des codes masculins, en effet, et où il faut en quelque sorte braver, non pas des interdits, parce qu'aujourd'hui tout est ouvert, depuis 75, c'est hier, hein, moi j'ai passé mon bac en 76, donc c'est quand même hier pour moi, il n'y avait pas encore de grandes écoles ouvertes aux femmes, les progrès accomplis depuis sont immense. Et quand on dit il n'y a pas de femmes dans la finance, il y en a peut-être pas dans certains secteurs de la finance, mais en vrai, il y a des patronnes de banque, des patronnes de l'asset management, la nouvelle patronne d'Amundi, qui est le troisième leader mondial de gestion de fortune. Il y a Marguerite Bérard à la BNP, il y a Ariane de Rothschild. Ce sont des patronnes de banque. Elles ouvrent des voies. Elles sont des pionnières. On insiste sur tous ces sujets. L'industrie, c'est vrai, c'est plus compliqué. L'industrie, compliqué, il faut aller en
Pourquoi
usine.
Pourquoi c'est plus compliqué? Parce que
c'est des représentations. Encore une fois, je suis sûre au fond de moi, et c'est intuitif, je parle avec mes tripes, parce que je vois des jeunes chez Webedia, mais je vois des plus âgés chez Force Femmes, qu'il n'y a pas de tabou pour les femmes, et que si on les pousse et qu'on leur dit « oui, vas-y, tu peux y aller », je te donne les codes. Je te donne les codes, je te montre le chemin, parce que d'autres l'ont montré, alors il n'y a pas d'interdit. L'industrie, il n'y a pas encore beaucoup de rôle modèle, il y en a moins que dans la finance. On a la patronne de Solvay, on a la patronne d'Engie, on en a quelques-unes, mais pas suffisamment.
Ça sent parfois éloigné, ça sent parfois loin.
C'est un peu loin, il y en a assez peu dans les comités dits exécutifs, d'où toutes les réflexions sur les quotas. Après, les quotas dans les conseils d'administration, il y a les quotas dans les comités exécutifs et il faut y aller à mort, le plus vite possible et sans le moindre état d'âme.
On en a parlé dans la première table ronde. Absolument. Ce matin, tout à fait.
Et si c'est temporaire, au moins ça ouvre des voies et ça permet que ça bouge. Donc, c'est contrasté, mais ça va dans le bon sens. Mm-hmm. Et quand on parle de la tech, et ces jeunes femmes ici, merveilleuses, vont en parler 10 fois mieux que moi, moi je vois au niveau de Webedia. Donc Webedia, ce sont des médias digitaux, Allociné, jeuxvideo.com, 750 grammes, mais aussi des influenceurs du marketing digital. Mm-hmm. Là, c'est une population, on a 2000 jeunes de moins de 29 ans de moyenne d'âge. Il y a des secteurs où on a plein de femmes, les rédacteurs, les rédactrices de Allociné, des sites, etc. Plein dans le marketing force de vente, c'est ce que vous disiez, Julia, et alors extrêmement peu dans le jeu vidéo et chez les développeurs, parce que ce sont des codes. Et les codes, elles ne les ont pas, effectivement. Alors, nous, chez jeuxvideo.com, c'est une femme qui est à la tête de jeuxvideo.com, Michel Benzeno. C'est une femme, Salomé Lagrelle, qui présente le journal de GV, etc., etc. Plus on en montre, plus on en fait, et sans compter le e-sport. Et je ne vois pas d'autre moyen que de prendre le taureau par les cornes et de se dire, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'interdit, même si le chemin reste encore long.
Merci beaucoup pour cet éclairage, en effet, positif. Nous allons rester sur cette note positive. Caroline Ramade, je vais vous poser la même question. À votre avis, pourquoi aussi peu de femmes dans la tech? Vous y remédiez avec votre plateforme. Vous allez peut-être nous expliquer aussi comment fonctionne ce site de recrutement et de mise en relation.
Alors finalement, c'est un site de recrutement qui vise l'empowerment des femmes dans la tech. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des femmes qui sont précieuses et rares. Elles sont effectivement très peu nombreuses. Il y a toutes les raisons aujourd'hui pour qu'elles n'y aillent pas, parce qu'effectivement, c'est pas une industrie qui est très accueillante. Et donc, aujourd'hui, il y a quand même un mouvement d'entreprise qui bouge. Et donc moi, je me suis dit, au lieu qu'une femme sur deux quitte la tech après 8 ans d'expérience, qu'est-ce qu'on peut leur proposer en fait? Dès l'école, où elles peuvent potentiellement avoir une très mauvaise expérience comme Centrale Supélec ou autre, ou dans leur carrière, pour tout de suite aller trouver la bonne entreprise. Donc quand on va sur 15Tech, on peut avoir un coach de carrière et on peut choisir avec ses propres critères le job de ses rêves, où on va arriver à faire émerger la prochaine génération de role models dans la tech, celle qui va inspirer concrètement au quotidien, celles qui vont arriver en leur montrant que c'est possible. Moi, je pense qu'il nous faut à la fois des gens comme Véronique Morali ou Laurence qui vont être des role models, qui vont montrer l'exemple qu'on peut et être entrepreneur dans la tech, et être une grande chercheuse scientifique dans l'intelligence artificielle. Mais il faut aussi des rôles modèles actionnables qui soient à nos quotidiens, nos mères, nos tantes, nos amis, qui montrent que on est dans un endroit où c'est effectivement super cool de travailler. Et donc je pense que ça, c'est le mouvement où je pense qu'on a passé l'ère du constat, les chiffres on les connaît, ils sont déplorables.
Vous me disiez malgré tout quelque chose d'intéressant, si on reste encore un tout petit peu dans le constat avant d'avancer sur les solutions très concrètes que vous mettez chacune en place dans vos domaines de compétences, c'est que le problème n'est pas tant la barrière à l'entrée, elle est là bien sûr, dans les filières, mais c'est également qu'elle ne reste pas, et on en parlait pour des raisons de sexisme ordinaire ou d'autres choses.
Effectivement, les trois raisons pour lesquelles elle ne reste pas, c'est effectivement la toxicité,
c'est ça, ce que vous disiez.
Toxicité de l'environnement de travail pour certaines entreprises, encore une fois, donc on peut faire un choix. Il y a effectivement une différence d'écart salarial, 10 000 euros chaque année, ça fait 300 000 euros sur la carrière pour une data scientist ou une développeuse, qui sont pourtant des profils que tout le monde recherche aujourd'hui, tout le monde se bat pour les avoir. Et le troisième point, c'est que aujourd'hui, dans la tech, on a beaucoup misé sur un management, sur les compétences hard skills, on va dire. Donc, est-ce que tu sais bien coder, etc. Donc, c'est des gens qui sont devenus managers, mais qui n'avaient pas les soft skills juste d'empathie. Aujourd'hui, on se rend compte, et c'est marrant, je parlais avec ça avec Jean-Baptiste Rudel, l'ancien créateur de Criteo. Il me disait qu'il pense qu'il faut 50% de femmes managers dans les scale-up aujourd'hui, parce que c'est des environnements de travail tellement difficiles, en hyper-croissance, que pour y arriver, pour structurer, prendre soin des gens, parce qu'on les essore et ensuite, voilà, et après on change, il faut qu'il y ait des structures organisationnelles fortes qui prennent en compte l'humain. Par notre éducation, et de manière très stéréotypée, les femmes sont plus empathiques malgré tout, et plus collaboratives, un peu moins dans l'ego, et ça permet d'avoir une rétention des employés. Toutes les prouvent le prouvent aujourd'hui, que ce soit sur la performance des entreprises, le bien-être, mais c'est également un critère de rétention également pour les hommes. Il y a une étude qui est sortie d'un fonds d'investissement américain qui s'appelle First Round en 2019 et qui dit que la proportion des employés qui ont propension à quitter l'entreprise si les fondateurs ne prennent pas des actions très fortes en matière de diversité et inclusion sont passés de 11 à 34%. Voilà, ils disent, moi je quitterai la boîte. Et il y a eu des exemples assez, je pense, exemplaires pour montrer que la tech n'a plus le choix de changer. Il y a une boîte qui s'appelle Basecamp aux États-Unis et ils ont tué le comité de diversité et inclusion. Dans la minute qui a suivi, les employés se sont organisés, ils ont fait une démission publique. 40% des employés sont partis. Le head of product, donc des hommes et des femmes, sont partis. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est name and shame, peut-être, ou alors faites un choix, et donc nous, on donne le pouvoir d'avoir ce choix. On a accès aux data, y compris dans les départements tech. Qu'est-ce qui est mis en place? On peut contacter les employés pour pouvoir demander si ça se passe bien ou pas, et on ira encore plus loin, on va lancer un assessment qui sera gratuit pour pouvoir tester son degré d'inclusivité, et peut-être que demain, on obligera également à pouvoir interroger les femmes dans ces entreprises pour être absolument sûres, et demain, élargir à d'autres champs de diversité et d'inclusion.
On a l'impression que les entreprises ont moins le choix, n'ont plus le choix. Peut-être on peut prendre l'exemple d'Ubisoft dont vous me parliez. Alors après, c'est encore après un scandale, bien sûr, encore de harcèlement sexuel, et qui a remplacé, donc, fait appel à une DRH
australienne.
Ils ont fait une nouvelle DG France.
Une nouvelle DG France aussi. Tous les groupes américains viennent de mettre des femmes DG France.
Pour les femmes, et bon pour... Voilà, ça donne un autre climat, quoi qu'on en dise, c'est-à-dire la mixité donne un autre climat à la fois de travail et de négociation salariale. Avant de vous donner la parole, Laurence de Villers, j'aurais juste voulu savoir pourquoi cet écart de salaire, c'est la négociation au démarrage, c'est ce qu'offre...
Alors, on a 7% des femmes qui négocient leur salaire à l'entrée. Tous les RH ont une poche de négociation au démarrage. Personne n'achète les salaires. Elles demandent effectivement moins. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours un bootcamp en novembre qui s'appelle le What I Really, Really Want Bootcamp. Et qui
ce
donne.
Dont parlait Aurélie Jean.
Voilà. Et donc, exactement. D'ailleurs, on va inviter Aurélie. Voilà, parler de ça.
On distribue à tout le monde, surtout. Moi, je veux bien l'avoir aussi.
Ouais. Voilà. Ouais. Donc, c'est un bootcamp où on fait venir des speakers qui ne donnent que des conseils en négociation et en négociation salariale.
Exactement.
Voilà. Donc, je pense qu'il faut empower les femmes. Et après, je pense aussi que les entreprises peuvent être plus innovantes que ça. Ils peuvent aussi décider de mettre des rangs de salaire et tout simplement, quand elle a été sous-payée, la remettre à salaire égal. Encore une fois, on parle de talent pénurique. On est à 49 millions d'emplois dans la tech en ce moment. Ça va passer à 149 millions en 2025. Et deuxième chose, je te laisse pas la parole après, Laurence, je pense qu'aujourd'hui, les femmes arrivent massivement. Elles se reconvertissent à 30, 35 ans. Nous, tous les jours sur la plateforme, on a 50% du flux, c'est des reconversions. Des femmes qui peuvent venir de dures coutures, qui se forment au front-end, des femmes qui n'avaient pas d'études, qui faisaient le ménage et qui se reforment en code. Et aujourd'hui, aucune start-up n'est prête à les embaucher. C'est pour ça qu'on mène des partenariats actifs avec des grands groupes aujourd'hui. Donc, on a déjà négocié Orange et on va avoir sûrement BNP et d'autres. Et on s'assure qu'ils ont des structures ou Sodexo qui sont excellents sur les centres de la data et de la formation et que des femmes leaders dans la tech. Et pour qu'ils soient les meilleurs, donc ils continuent à former ces gens. Et on leur dit, de toute façon, vu la courbe de croissance, tout le monde ne codera pas. Donc il y aura évidemment des mouvements no-code, mais il y aura aussi un besoin tellement pénurique qu'il faut bien que les entreprises prennent leur responsabilité sociale de les former. J'aimerais que les scale-up participent à ce mouvement, ou les fameuses unicorns. On est en train de les faire changer. Scaleway vient de lancer un programme pour les tout jeunes étudiants.
Vous pouvez juste dire scale-up?
Scale-up, ça veut dire c'est une start-up. Alors, c'est une start-up dans laquelle on a eu énormément d'investissements. Vous pouvez voir tous les jours, là, en ce moment, il y a des start-up qui lèvent 500 millions de dollars. Donc, qu'est-ce qui se passe quand un investisseur lui dit... que des hommes, qui lui donnent 500 millions de dollars, eh bien, ça veut dire que dans l'année, ils doivent recruter 200 à 300 personnes. Qu'est-ce qui se passe? le modèle de reproduction, parce qu'il manque très très peu de femmes dans le monde de l'investissement, c'est un modèle de reproduction sociale. Investir dans des femmes ou des gens qui n'ont pas fait des grandes écoles, c'est un risque. C'est un false positif ou un false négatif, comme ils appellent. J'adore lire ça parce que je prépare ma levée de fonds. Et donc, du coup, ils investissent, donc ils leur disent, vous devez embaucher des rockstars. Donc la rockstar, elle n'est pas en dehors du chemin. Et il vaut prendre quelqu'un de chez Spotify, de chez Revolut, de chez Manzo. Et puis, ils vont dire, bah, okay, je fais exactement la même chose. Donc, je te prends toi, parce que toi, tu as exactement le bon, ce qui va plaire à mes investisseurs. Bah, ça, il faut en sortir, parce que de toute façon, ces gens-là, il n'y en a pas assez. Et puis, de toute façon, derrière, il y a des Google et des Facebook qui les paieront 10 fois mieux que vous.
Vous disiez que c'était très étriqué. C'est-à-dire que
c'est très étriqué.
Voilà, si on n'a pas d'innovation, case,
voilà, donc c'est dans la case. Et ils acceptent la reconversion que quand on a un employé en interne qu'on a identifié comme un talent. Et là, on lui dit, bah, OK, tu peux passer de HR à codeuse, il n'y a pas de problème, je te fais confiance. Et ça, c'est un vrai sujet. Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'analyser les soft skills de ces gens sur leur capacité de changement.
Laurence De Villers, dans l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on a pu constater ? Quel est votre constat ? Quand on lit votre livre, c'est quand même assez édifiant de dire que tout est conçu par les hommes, avec des biais, on en parlait aussi, algorithmiques, absolument étonnants. Qu'est-ce que vous avez, vous, constaté dans l'intelligence artificielle avant de passer aux solutions, en fait ? Et en quoi c'est important et en quoi c'est urgent, finalement, d'avoir plus de femmes dans ces domaines, notamment l'intelligence artificielle ? Ce n'est pas qu'une question d'égalité lancée comme ça ou économique, c'est une question vraiment d'éthique également. Ça, c'est important pour vous, vous m'en parliez.
Alors, le constat, il est celui que vous avez énoncé. Oui. Donc, les chiffres, j'en ai assez de les entendre parce que je vois pas en quoi ça dynamise les femmes quand on leur dit vous êtes très peu, s'il y a beaucoup de risques, surtout. Voilà, non, le vrai sujet, c'est l'intelligence artificielle a besoin des femmes autant que des hommes. C'est-à-dire qu'on est en train de modéliser notre société en grandeur. Il faut anticiper l'avenir. Quand je vous entends parler de code, mais c'est pas que ça, l'IA. L'IA, c'est l'IA et la santé, c'est l'IA et la société, c'est l'IA et l'écologie, le green, c'est l'IA et l'information, et c'est l'IA avec nos connaissances qui vont changer, notre mémoire qui va changer. Combien de numéros de téléphone vous connaissez maintenant ? Moi, je connaissais une centaine avant d'avoir un téléphone greffé à la main. Qu'est-ce que sont ces objets qui sont en IA ? C'est des interfaces avec le monde. Des interfaces qui font des loupes, qui modifient le monde ou qui sont des prothèses. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces sujets-là ? Ce sont des sujets pour les femmes autant que pour les hommes. C'est des sujets de parité. Si on ne monte pas en intelligence collective ensemble sur ces sujets-là, c'est n'importe quoi. Donc le marché va s'ouvrir énormément sur les humanités numériques. On va arrêter de penser que l'IA, c'est des geeks qui font que du code. Arrêtons de dire qu'il faut juste coder. Il faut comprendre avant tout les concepts derrière tout ça. Alors moi, je m'implique à la fois, quand je suis professeur avec mes élèves, en disant, écoutez, c'est un métier de femme. Évidemment, j'ai la chance d'être passée de Saclay, où il y avait 10% de femmes, à la Sorbonne, où il y en a 60%, en allant vers la pluridisciplinarité. Et évidemment, c'est pas seulement faire des algorithmes. Les algorithmes, on va les chercher chez Google, Facebook, ils sont dans la librairie. Il faut les nourrir de données. Qu'est-ce que sont ces données ? Elles nous représentent ? Est-ce qu'il y a des biais ? Est-ce qu'elles sont saines ? Est-ce que c'est ce qu'on veut ? Comment on se prémunit ? Comment on va auditer ça ? Comment on va l'évaluer ? Et on a besoin de femmes de tout acabit, on a besoin de mélange de disciplines, on a besoin de mélange social, parce que nous représentons la société avec ce prisme sur la société. D'accord ? Et il y en a partout de ces systèmes.
Vous pouvez nous donner des exemples de l'impact réel ? Par exemple, moi j'ai appris que, alors on sait que les robots conversationnels portent des noms de femmes, Alexa, alors, Siri.
Ça c'est donc, la petite phrase que je dis partout, donc 80% des codeurs sont des hommes ou des concepteurs, et 80% des objets qui nous parlent, qui sont censés être des objets sociaux et affectifs, ils ont des prénoms de femmes, Alexa, Samantha, Sophia, Siri, ça veut même dire un truc sur les femmes, pardon. Bon,
Siri, j'ai appris dans votre livre c'était femme magnifique qui nous mène à la victoire en norvégien.
Et tous ces trucs-là, donc, qui ont des voix féminines, jeunes pour la plupart, représentées physiquement quand elles sont dans les petits bonhommes, là. Allez voir au Japon, il y a des trucs qui s'appellent Getbox. C'est un hologramme qui sort d'un Google Home, en gros, qui vous parle. Et c'est comme une jeune fille, la petite amie à la maison, quoi. Donc, elle est à la maison, elle s'occupe de tout. Mon chéri prend un parapluie, il va pleuvoir. Et puis, quand le garçon est à son travail, il continue à envoyer tu me manques, reviens à la maison, ta ta ta. Comment c'est possible d'avoir des objets qui parlent comme ça? Donc nous sommes devant, tristement, une représentation des femmes qui est vraiment simplifiée et qui est une espèce d'esclave, voilà, qu'on allume, qu'on éteint, on en fait ce qu'on veut, c'est facile. Et ça, en grandeur. Alors quand vous posez la question des industriels, j'avais demandé donc à un Suédois, un banquier suédois, je lui ai dit, pourquoi votre chatbot, votre agent conversationnel de la banque, s'appelle, allez, je ne sais plus comment elle s'appelait, elle s'appelait Anna ou je ne sais pas quoi, c'est pourquoi ce n'est pas Kirk? Il m'a dit, parce que j'ai fait un sondage. J'ai fait un sondage auprès de mes clients. Alors mes clients masculins préfèrent des voix de femmes et les clientes féminines aussi. Ah, bon, alors comment on fait sur la planète? Tout le monde va parler comme ça, l'ascenseur, ma voiture, ma montre, tous les objets autour de moi qui vont arriver en foultitude, là, l'IoT, tous ces trucs qui partent, les agents conversationnels, ils vont arriver partout avec des voix féminines. Bah non, attendez, quand j'appelle quelqu'un au téléphone, j'espère au hasard tomber sur l'un ou l'autre. C'est pas vrai, l'informatique est discriminante. Lorsque je regarde ce que veut dire docteur, je fais une recherche en traduction, bah c'est forcément un médecin. Quand je cherche nurse, c'est forcément une infirmière. Donc la statistique, pour nous, c'est le renforcement des stéréotypes. Ce qui est derrière ces systèmes, c'est le renforcement des stéréotypes. On a besoin non seulement de construire l'avenir en étant intelligent pour ne pas se faire complètement isoler des autres, il faut construire une intelligence collective mixte si on ne veut pas être en addiction de ces systèmes, totalement, en manipulation, enfin en étant manipulé par ces systèmes. Je travaille actuellement en recherche sur le nudge, l'incitation à faire, c'est-à-dire en fait... Je vous donne un exemple de nudge, parce qu'il faut que ça impacte. Hein. Le nudge digital. Vous cherchez une chambre d'hôtel. Alors vous trouvez une chambre et on vous dit, il ne vous en reste qu'une. 25 autres personnes cherchent la même chose. Tac, je la prends. Voilà. Ça, c'est de l'incitation à la décision. Hein, de l'aide à la décision qui n'est pas une manipulation obligatoire. Votre choix est libre. Sauf qu'on vous dit, ta-ta-ta, ça serait mieux. Il y en a partout. On a découvert récemment, et vous verrez sur les réseaux, que Facebook faisait ça pour capturer plus l'attention des femmes. En envoyant des publicités ciblées pour qu'elles restent plus longtemps sur les réseaux. Ces manipulations de comportements liées aux biais de cognitifs sont connues, archi-connues, sont théorisées par tout un nombre de prix Nobel en économie comportementale qui viennent de l'école de Chicago. 80%
Laurence de Villers, de ces gens viennent de là. Qu'est-ce que vous pensez de cette action, de cette lanceuse d'alerte formidable, l'ex-ingénieur de Facebook qui parle de ça? Elle parle d'éthique.
Mais c'est
aussi.
Très bien, c'est formidable, mais on va en voir de plus en plus. Alors, attention, parce que là, récemment, on a été privé de WhatsApp, Instagram, je sais pas quoi, pendant un certain temps. Je sais pas, vous vous êtes rendu compte de la dépendance? Quand je demande à mes étudiantes combien de temps vous êtes sur votre iPhone, là, on peut très bien voir la consommation, il y en a qui me disent 7 heures. 7 heures, 8 heures. Vous avez vu qu'en Chine, on a dit maintenant, les enfants, pour les jeux vidéo et tout ça, pas plus de 3 heures, et encore segmenté 1 heure par 1 heure, de 20h à 21h le soir. Qu'est-ce que ça veut dire pour demain? On est obligé de trouver des régulations. C'est ça que l'Europe propose. Moi, j'essaie d'aider en essayant de travailler sur les normes et standards. On a besoin de cela pour que les industriels s'alignent, puisse auditer ce qu'ils font avec des comités extérieurs, hein, pas les comités à la Facebook où on paye son comité éthique. Hein, l'éthique, c'est pas ça. L'éthique, c'est des dimensions essentielles. La dignité de l'humain, le droit de l'humain, le droit à pouvoir se détacher de ça, le fait qu'il n'y ait pas deux vitesses. Hein. Regardez ce que font les personnes plus âgées. Elles ont du mal avec Internet. Il y a partout cette dépendance maintenant, pour l'administration, pour tout. Comment on garde le choix de faire on-off? Comment on garde cette idée dans l'assurance d'avoir une solidarité? Si je sais exactement quel est le risque d'un tel, je lui propose exactement de payer juste pour son risque. La solidarité de la société, où est-elle? Et là, je pense que ce sont des métiers autour de l'IA qui sont extrêmement nombreux. Il n'y a pas assez de filles. Venez,
les filles, c'est ça, où les filles peuvent trouver. Vous dites aussi qu'il faut chercher les filles autrement.
Alors, faut les chercher autrement. Donc moi, j'ai deux facettes là qui sont actives là-dessus. C'est que je suis présidente d'une fondation qui s'appelle la Fondation Blaise Pascal, au service de la médiation en mathématiques et en informatique, avec Cédric Guilani, qui est le président aussi, qui vient nous aider. Des tas de gens très connus qui sont des académiques, et on essaie de pousser. De donner de l'argent à toutes les bonnes initiatives pour qu'il y ait plus de filles en sciences, plus de garçons en sciences, dans tous les milieux, à l'école, très jeunes. Et donc, il y a des formations comme ça qui vont réseauter dans toute la France.
Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un exemple?
Un exemple chiche qui a été monté. Alors, qui finance ça? C'est sur les grands académiques. On attend tous les industriels qui viennent nous aider. Il y en a quelques-uns. Un exemple chiche qui a proposé l'INRIA avec nous, c'est un prof masculin-féminin qu'on enverra dans les lycées. pour aller dire voilà ce qu'on peut faire. On peut aller sur la Lune, on peut faire un village sur la Lune avec Claudie Aigneret, et il y a de l'IA là-dedans. On peut aller faire un truc pour la santé, et il y aura de l'IA aussi. On peut aller s'intéresser à l'agriculture, et il y aura de l'IA aussi. Donc c'est tous ces sujets qu'on doit impacter dans leur sens, dans la société, avec des applications assez concrètes pour qu'on embarque tout le monde. Et ça, avec une mesure de « on ne gaspille pas, on ne fait pas d'inégalité, ni sociale, ni de genre, et on lutte ensemble pour ça ». On peut s'engager, je pense que c'est sur le long terme. Il faut basculer les choses, je suis tout à fait pour les quotas. Tant qu'on n'arrivera pas à être une masse suffisante, on n'arrivera pas à faire retourner les choses. Il faut changer la façon dont les hommes voient les choses. Deuxième point, je suis aussi dans un conseil scientifique pour une nouvelle école qui va s'ouvrir. EPITA IA, double cursus. Elle va donner donc une qualification d'ingénieur en tech et aussi de management. Et on s'attend à ce qu'il y ait une mixité. J'étais hier dans ce conseil. Nous étions dans le board, 4 femmes et 20 hommes. Déjà, j'ai dit, comment se fait-il qu'on ne soit pas plus ? Je regarde la brochure. La brochure, c'est des robots, c'est Black Mirror. Je dis, c'est pas ça qui va attirer. Puis d'abord, ça correspond à quoi, ça ? C'est la fiction. Nous sommes là pour faire une économie positive de tout ça et pour regarder comment la société va évoluer. Et nous avons besoin d'attirer les femmes autrement. Il faut leur parler de ce qui peut les amener. Parce que si on va juste chercher maintenant dans les quotas, il n'y a pas de femmes. Si on dit juste, on ne fait rien, il n'y en aura pas. Il faut aller les chercher au plus jeune âge, dans les lycées. Il faut leur apprendre que maintenant, il y a des travaux comme ça qui seront très bien payés, sur lesquels il faut avancer ensemble avec de la tech plus autre chose.
C'est aussi, merci beaucoup Laurence de Villers pour cet engagement. Véronique Morali, vous m'aviez aussi parlé d'une école, c'est ça, que vous financez avec vos filles. Également, Ada Tech School, je crois qu'il est représenté dans le forum aussi.
D'abord,
dans les ateliers.
Moi, j'aime beaucoup la voix de Laurence. Dans un robot, ça serait parfait. Hein. Je dois
dire non, pitié.
C'est bien choisi.
C'est très directif aussi.
C'est pas pour rien qu'il y a des jolies voix de femmes dans tous ces robots qui portent des... Il y en a un qui devrait s'appeler Laurence, justement. Ada Tech School, c'est une école chère à mon cœur, mais c'est une des, j'espère, des nombreuses écoles, parce que quand j'entends Laurence parler, on voit bien qu'il y a une floraison, il y a quand même plein de frémissements. Donc c'est une de mes filles, en effet, qui a été une des cofondatrices avec Chloé Hermarie. Et le constat, un petit clin d'œil à Ada Lovelace, qui était une des femmes pionnières dans le domaine de la science informatique. Et donc l'idée, c'était effectivement d'aider au plus jeune âge, c'est les 18-25 qui étaient la cible des filles, à se décomplexer vis-à-vis du code. Alors certes, comme dit Laurence, le code n'est pas tout. L'intelligence artificielle, c'est l'étude de la société, la réponse aux besoins de l'évolution de nos sociétés, mais il faut commencer par quelque chose. Et la première des choses, c'était de penser une école de filles, pour des filles, par des filles. Donc,
une école féministe qui
désinhibe et qui décomplexe. Et qui dit, non, on n'a pas raté le coche. Elles avaient donné une interview à l'époque, parce qu'on ne s'est pas démonté des ordinateurs à 6 ans. C'est inspiré des codes de Montessori, et Chloé Hermarie a mis en place une approche bienveillante, une approche où, effectivement, l'environnement, comme tu le disais, n'est pas contraint, n'est pas anxiogène, n'est pas rédhibitoire dès le départ. Donc voilà, 42
autres
a ouvert un champ,
et en train de faire un chantier avec
des codes tellement masculins, tellement effrayants que personne, il n'y a aucune fille, ou en tous les cas très peu. Donc il y a cette école, Ada Tech School, mais il y en a beaucoup qui s'inspirent justement, enfin qui tiennent compte de cet environnement un peu féminin friendly dont les femmes ont besoin pour aller capturer des métiers qui sont énormes, immenses, même abyssinaux quand on entend tout ce qu'on peut... tout ce qu'on devrait faire, là où les femmes devraient être, on se dit mais que se passe-t-il ? Pourquoi y a-t-il tous ces... Donc, moi je redescends de 10 étages par rapport aux envolées de Laurence qu'on vient d'entendre, parce que ça nous projette dans un monde très méta, et ça nous montre l'immensité. Quand on revient au quotidien et à ce que les femmes vivent, à la fois les jeunes, puisque moi j'en ai chez Wabedia des jeunes et des plus âgés, j'allais dire des plus vieilles, mais encore des remarquables chez Force Femmes, on voit bien que toutes ces dimensions, elles ne sont pas appréhendées telles quelles. On a besoin d'esprits qui projettent et qui donnent des perspectives, mais on a aussi besoin de l'aide pour les femmes au quotidien, de savoir qu'est-ce que ça veut dire que de pouvoir aller dans des entreprises ou de créer la sienne à partir d'une idée et de pouvoir se faire aider. Donc on est très pragmatique.
Vous faites au sein de Force Femmes,
c'est vraiment aider les femmes à aller dans des métiers d'hommes, parce qu'on parle d'aujourd'hui la tech,
c'est
de l'IA.
Ce ne sont pas des métiers d'hommes.
Mais non, mais ce ne sont pas des métiers d'hommes, mais ce sont des métiers représentés comme étant essentiellement du domaine du masculin, même si effectivement ça n'est pas vrai, puisqu'il faut la juste représentation du monde. Mais on a parlé de l'industrie, on a parlé de la finance, il y a les transports par exemple, il y a l'hôtellerie et la restauration. Si je veux juste revenir à des métiers dits les secteurs en tension, et où il faut aussi qu'il y ait des femmes, parce que c'est là où il y a des emplois. Moi, je reviens, c'est pour ça que je dis que je redescends à des étages extrêmement pragmatiques. Où est-ce qu'il y a de l'emploi? Où est-ce que les femmes qui sont au chômage peuvent aller? Où est-ce que les jeunes qui sortent des écoles peuvent aller pour trouver un job? Or, il y a tout ça, effectivement, et c'est appealing, c'est beaucoup plus attractif que se dire je vais aller dans la restauration, parce que même si on a Hélène Darroze comme rôle modèle, ben non, c'est pas comme ça. Et on voit bien qu'il y a des tas de barrières à l'entrée représentées.
Psychologie.
Donc voilà, on travaille un petit peu sur tout ça et il faut le faire aussi. C'est un complément à quelque chose qui s'inscrit dans une logique d'accompagnement.
Je vois qu'on a encore très peu de temps. Caroline Ramat, comme mot de la fin, peut-être aussi sur les solutions, les autres initiatives pour faire rentrer plus de femmes dans ces domaines.
Alors je pense qu'on est vraiment en train d'être dans une ère de solutions, donc je pense que tout le prouve ici, et il y en a plein, les décodeuses pour des jeunes filles de quartier ou d'autres vraiment beaucoup, donc je suis très très optimiste pour l'avenir. Je voulais juste dire qu'en fait les femmes avant c'était plus de 40% dans la tech, c'est juste l'ordinateur B2C qui les a fait partir. Pourquoi? Parce que c'est devenu un enjeu de pouvoir et d'argent. Donc on est bien sur les questions de l'accès à la manne financière. Ces boulots-là, c'est les mieux payés du monde, au-delà, et c'est les métiers qui vont maîtriser la donnée, et la donnée c'est l'or d'aujourd'hui, c'est ce qui va manipuler potentiellement les gens, c'est pour ça que les GAFA se précipitent.
Donc non, au bon sens du terme, j'espère, quand tu dis ça va manipuler les gens, au bon sens du terme.
Non, mais au bon sens du terme, dans le sens c'est si on n'a pas de mixité, et si on n'a pas des gens qui ont de l'éthique, et si c'est pas étudié d'ailleurs dans les écoles,
c'est ça, c'est important de le rappeler, hein.
Ah bah bien sûr,
l'éthique elle est
nulle part.
Quintessentiel avec tout ce dont on parle aujourd'hui.
L'EPITAIA dont je parlais, c'est fondamentalement avec cette vision du monde, en disant l'éthique, les valeurs sont au centre de ce qu'on veut faire apprendre à ces jeunes qui vont être demain les leaders en tech et management.
Voilà, donc changeons le marketing de ces jobs, arrêtons de raconter que c'est effectivement des métiers d'hommes. En fait, on a besoin des femmes, on a besoin de mixité, on a besoin de diversité, on a besoin de gens différents. Donc il faut l'inventer ensemble, et bien au-delà de la mixité, tout le monde doit participer à ça, et c'est vraiment essentiel.
Moi, je pense que c'est un mouvement qui va monter. Hein. On est en train de dire c'est difficile, mais non, c'est pas difficile.
Voit,
ça va monter.
On voit que l'évolution
parce
est là.
Parce que les jeunes, ils aiment parler de l'écologie, ils aiment parler de la diversité. Quand on regarde, moi, je regarde les jeunes qui sont autour de moi, qui ont 18 ans, 20 ans, 25 ans, qui font des thèses ou qui sont à l'université ou même avant au lycée, ils ont cette appétence vers je suis là pour quelque chose. Et en fait, ce numérique qui nous restreint, qui nous minimise à ce qui est tracé dans l'ordinateur, il faut le contrôler.
Et on peut lui donner s'adapter du sens à ce moment-là.
Et donc j'écris moi beaucoup dans la recherche sur ces sujets. Il faut construire.
Ah voilà, on va finir peut-être sur demain. L'article que vous vouliez nous montrer, voilà, nous partager avant de clore.
Il est urgent donc de faire une éthique de la relation humain-machine. Donc dans le dernier numéro de la recherche, et je le dis partout, la coévolution humain-machine, la coadaptation humain-machine, c'est le sujet de demain. Les machines, on les fabrique nous pour qu'elles s'adaptent aux besoins des personnes, ou pour qu'elles leur vendent des trucs, voilà, bon, pour des trucs bien et des trucs moins bien. Mais en tout cas, on les adapte à chaque personne. Comment nous allons nous adapter à elles? C'est un vrai sujet. Il faut donc non pas étudier que la machine à côté ou que l'humain, mais le couple,
les deux, les
relations. Machine.
Et ça fera l'objet d'une autre table ronde, peut-être dans un an. Merci, merci beaucoup.
Elle active. Le magazine Elle s'engage auprès de vous dans votre vie professionnelle. Retrouvez tous nos conseils sur elle.fr. Votez, commentez, abonnez-vous et retrouvez Elle Active sur toutes les plateformes de podcast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.